Psaume 102. Psaume 102, on va lire à partir du verset 1er, on va lire les 12 premiers versets. Prière d'un malheureux. Ça commence bien. Oh là là. Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer, car mes jours s'évanouissent en fumée. Et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat huant des ruines. Je n'ai plus de sommeil. Je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Chaque jour, mes ennemis m'outragent. Et c'est par moi que jurent mes adversaires en fureur. Je mange la poussière au lieu du pain et je mêle des larmes à ma boisson. Cause de ta colère et de ta fureur. Car tu m'as soulevé et jeté au loin. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin et je me dessèche comme l'herbe. Amen. J'ai choisi de donner pour titre à ce message les rafraîchissements de Dieu. Amen. C'est plus positif, ça, hein? C'est plus agréable. Parce que c'est de cela qu'il s'agit, bien sûr, dans ces moments particulièrement bénis, où justement Dieu se manifeste, il manifeste sa bonté envers nous, dans nos situations difficiles, lorsque nous traversons comme des déserts arides ou des sombres vallées, lorsque nous sommes dans la difficulté au possible, quand la souffrance et l'épreuve nous courbent et que nous ne savons plus que faire. Nous ne savons plus que faire. Parce que nous ne sommes pas toujours les plus forts. Eh oui, des hommes que nous considérons comme des héros de la foi ont aussi connu des moments d'angoisse, de détresse, de questionnement important, de doute également. Parmi eux, David, l'homme inspiré, l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme de foi qui a vaincu ce géant, Goliath, bien sûr, connaissons son histoire. Il y a aussi Élie, ce prophète intrépide, l'homme de Dieu dont la prière instante ou insistante, dites-le comme vous voulez, et la foi produisent la pluie, font tomber également le feu du ciel. Eh oui. David, à plusieurs reprises, dans certains psaumes, il crie à Dieu sa détresse, ses angoisses, ses craintes, ses incompréhensions. Enfin, il est dans la confusion, il est mal. Alors, la lecture de ces paroles, bien sûr, nous mesurons la détresse de celui qui, dans d'autres circonstances, a su proclamer sa foi. Puis, il a exalté également l'Éternel pour sa bonté. Il a béni le Seigneur, oui. Et pour sa puissance également, sa délivrance, son amour, parce qu'il l'a vécu. C'est ce qu'il a vécu. Alors, ce que je constate, c'est que David, comme beaucoup d'autres, ne cache pas sa faiblesse et son trouble. Voyez-vous, il faut être vrai devant Dieu. Quelquefois, on répond machinalement, par pudeur, je ne sais pas. Ça va, ouais, ça va. Alors qu'intérieurement, ça ne va pas. Eh oui. Si nous pouvions lire dans chaque visage, dans chaque regard, on ne peut pas, le Seigneur, lui, le sait. Mais combien, quelquefois, nous serions sur la réserve. Eh oui. Alors, ce que je constate, c'est que David, comme beaucoup d'autres, qui ne cachent pas leurs faiblesses, leurs troubles, les psaumes, les écrits, les expériences se lisent, bien sûr, mais ils expriment, je dirais, leur détresse, ils révèlent que l'épreuve, l'angoisse, l'incompréhension, n'épargnent pas les plus fidèles d'entre les fidèles. Eh oui. Dans le psaume 143, verset 3, ce même David dit « L'ennemi poursuit mon âme. Il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Voyez David dans ces moments-là. Il dit, je n'ai personne d'autre que toi. Je n'ai personne. Et c'est en toi que je me confie. Élie, après avoir été l'instrument, tu dirais, d'un prodige divin, fut saisi d'une panique inexplicable, également d'un profond découragement, parce qu'il va demander la mort, bien sûr, mais dans 1 Roi 19, verset 1er, il est dit que Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Vous savez, il avait exterminé les prophètes de Baal, d'Astarté, hein, et il avait également montré au peuple d'Israël qu'ils avaient un choix à faire, s'engager avec Dieu et détourner leur cœur et leur âme de tout ce qui était de la futilité et de ses idoles, bien sûr. Voilà que Achab rapporte cela à Jézabel, comment il l'avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie voyant cela se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Vous voyez, il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Il y a des paradoxes là. Hein, il s'éloigne loin de Dieu, du plan de Dieu, pour sauver sa vie. Également, il y a quelque part un syndrome qui est particulier, c'est de la dépression. Puisqu'à un moment donné, il va demander la mort, il va en finir, il ne va plus souffrir. Vous voyez, ça nous montre que nous sommes fragiles. Fragiles quand nous sommes loin de Dieu, mais plus forts quand nous sommes dans la présence de Dieu. David, Élie et d'autres que nous pourrions citer, il y a des places là si vous voulez. Là ? D'accord. David, Élie et d'autres que nous pourrions citer étaient des hommes finalement de la même nature que nous, qui avaient aussi autant d'angoisse, eh oui, d'inquiétude, de souffrance, de faiblesse. Et parfois nous succombons à cela, nous chutons, eh oui. Alors il arrive que nous trouvions dans des déserts arides qui n'en finissent plus. On n'en voit pas le bout. Dans des vallées, les larmes, plus ou moins longues, mais c'est toujours trop long. C'est toujours trop difficile. Parfois, l'épreuve dure tellement longtemps que le découragement nous gagne, bien sûr. Nous marchons alors dans la vallée profonde, sombre, environnée de montagnes menaçantes. Nous sommes là, terrorisés, apeurés. On perd le sommeil. Alors, c'est dans de tels moments que David disait, je lève mes yeux vers les montagnes. Il dit, d'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel. Celui qui a fait toutes choses, ce que je suis. Amen. Et vous savez que Dieu peut permettre des temps difficiles pour son peuple, ses enfants. Il n'a pas dit que notre chemin serait parsemé de pétales de roses. Pas oublier qu'à la rose, il y a aussi la tige. Qui est un petit peu piquante, hein, tige de rose. Mais il a dit que ceux qu'ils lui ont fait, ils nous le feront aussi. Il n'a pas dit que nous serions épargnés par les tourments, par les difficultés, par des choses difficiles. Non, non, non. Il a dit une chose. Je suis avec vous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alors, je pense que comme moi, vous avez rencontré des personnes qui semblent inébranlables, des rocs. voyez, des gens forts en permanence, des gagneurs. Ils l'expriment bien, d'ailleurs, ils le font voir. Hein. N'oubliez surtout pas de ne pas vous confier en eux. Lorsque vous avez de la détresse, lorsque vous avez des difficultés, ne vous confiez pas à ces gens-là, parce que vous serez jugé. Vous allez être catalogué d'incrédules, de douteurs, de personnes qui manquent de foi, parce qu'il y a peu de compassion quand on est toujours vainqueur, toujours au sommet. Au lieu de cela, je pense qu'il faut regarder un petit peu à ces hommes, hein, comme David, parce que même s'il n'est pas parfait, David, il n'est pas parfait, David, on sait ce qu'il a fait, hein. Eh bien, au sein de ces difficultés, il nous montre, je dirais, le bon comportement. Il lui est arrivé de dire « Des mots sans nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. » Ça, c'est David. C'est David. Ah oui. On pourrait dire, mais David aussi négatif que cela. Eh oui, eh oui. Lui qui a vaincu Goliath. Eh bien oui. Eh oui. Il est de chair, hein. Faut pas l'oublier, il est comme nous. Eh oui. Ailleurs, il est dit que David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses filles, de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Bon, ma particulier, hein. Il fuyait. Il fuyait, s'était réfugié chez les Philistins. Et oui, quand on ne reste pas droit dans ses bottes, il faisait le fou. Vous vous rendez compte? Il bavait, il donnait des coups sur les montants des portes. Oh là là! Le roi l'a dit, j'ai passé de fou chez moi, que vous me faisiez entrer dans ma maison celui-ci, là. Vous voyez bien qu'il... Ça va pas, non? Eh bien oui. Alors, comment reprendre courage quand on est tombé si bas? Eh bien, sinon, en s'appuyant sur Dieu, en tournant les regards vers lui pour être secouru, reprendre courage, ça, c'est la solution. Amen. Ça, c'est la solution de Dieu. D'ailleurs, David le dit, le psaume 34, verset 5, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte quand un malheureux crie. Alléluia. L'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Oh, que tu es bon, Seigneur. Santé, voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Alléluia. Cependant, il y a des moments où nous n'avons même plus la force, je dirais, de prier tellement la souffrance nous écrase, nous oppresse. Des moments où on ne sait plus que dire. Alors, ce qui est formidable, c'est que c'est Dieu lui-même qui vient en notre secours quand nos forces sont épuisées, quand nous n'avons plus de ressources, quand nous n'avons plus rien. Regardez, lorsque Élie, le prophète, était incapable de réagir, Dieu va lui envoyer un ange pour le réconforter. Un roi, chapitre 19, verset 5, c'est la suite. Voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi. » Il regarda et il avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est très long et trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Que c'est bon les repas du Seigneur, même si c'est un petit déjeuner. Hein. Alléluia. Eh oui. D'autres fois, Dieu nous donne une parole inspirée par le Saint-Esprit formidable. Ah, Seigneur, j'attendais cette parole. Une prophétie. Au cours d'un moment de prière en commun, ou alors bien des frères et des sœurs qui nous visitent, que nous rencontrons, puis voilà qu'ils nous encouragent, ils prient pour nous. C'est ça l'Église, c'est une force, Quand il est faible, le fort vient, il l'aide. Alléluia. Ésaïe dira, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Amen. Un disciple, il écoute son maître. Le maître, nous le connaissons. C'est le Seigneur, c'est Jésus lui-même. Et nous, disciples, eh bien, nous sommes ses élèves, parce que c'est le segment. Hein, nous sommes ses élèves, les élèves du Seigneur. Alors ne dis pas « je sais ». « Ouais, je sais, j'ai compris. » Dis « Seigneur, je suis à ton écoute. Je veux être ce disciple soumis, attentif. Je veux t'écouter, Seigneur. » Paul exhortait les chrétiens de Colosse, leur disant ceci, « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. » Instruisez-vous, exhortez-vous les uns et les autres en toute sagesse. Amen. Sagesse. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Alléluia. C'est des moments bénis. On se réunit pour devenir meilleur. Et pas pire. Mais oui, meilleur. Je disais tout à l'heure au groupe qui était là, les dimanches matins, c'est des moments de fête. Alléluia! C'est des moments de fête, de réjouissance. Dimanche matin, je vais faire le plein. Parce que dans la semaine, waouh! Ben oui! Ben oui, c'est ça, c'est des moments particuliers. Hein? Eh oui! Alors Dieu, par sa parole également, la bonne nouvelle, rafraîchit notre âme. Proverbe 25-25. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Et puis, eh bien, il nous accorde l'onction de son esprit, comme le dit David. Tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu. Tu fortifias ton héritage épuisé. Alléluia, tu es venu fatigué, épuisé, chargé, contrarié. Le lait a débordé ce matin. Le café a bouilli. Il a été moins bon. Ou alors c'est la sucrière qui s'est ouverte et qui a inondé ton café. Je ne sais pas. Hein. Ou alors c'est la voiture qui a des problèmes pour démarrer. J'ai rencontré des personnes comme ça. Tous les dimanches matin, la voiture ne démarrait pas. Toute la semaine, ça marchait bien. Puis le dimanche matin, ben heureusement, ils savaient, ils avaient pris le coup, ils ne se laissaient pas abattre. Ils disaient, vite, descends au chemin, tu arrêtes le voisin. Le voisin, c'était un chrétien. Et puis hop, tout le monde partait en voiture. Ils ne loupaient pas le dimanche matin. Ils le disaient, c'est encore arrivé ce matin. Hein. On est là. Parce qu'ils savaient que c'était le mieux. C'est là qu'on est le mieux, c'est ici. Amen. Alors, aussi longue que soit la vallée des larmes, de la souffrance et de l'aridité, Dieu veille à préparer une issue pour la restauration. Et à un moment donné, le Seigneur va intervenir. Oh, il va le faire autant qu'il a choisi lui-même. N'est-il pas maître des temps, des circonstances, des moments, de toutes choses? Il sait le bon moment. Hein, il sait quand c'est le bon moment. Et là, il nous dit, allez, ouvre ton cœur, c'est le temps du rafraîchissement. Laisse-moi remplir ton âme. Laisse-moi te visiter. Alléluia. C'est l'Ecclésiaste qui dit que Dieu fait toutes choses bonnes ou belles en son temps. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Gloire à Dieu, même les déserts sont arrosés, ils ont une eau magnifique, désaltérante. Voyez-vous les rafraîchissements de Dieu? Eh bien, ils se manifestent au moment voulu. Quand Dieu sait que c'est le moment, il le fait. Ils se manifestent différemment selon s'il concerne notre esprit, notre âme, notre corps. Mais l'acteur principal, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le divin consolateur, celui que le Père nous a envoyé. Amen, il ne nous a pas laissé seuls. Eh oui, Jésus a dit aux disciples, « Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » C'est pourquoi Jésus nous appelle de venir à lui. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Amen. Il a été envoyé, Jésus, par son Père, dans ce but. Il dira d'ailleurs, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. » Car l'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Alléluia! Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen! Béni sois-tu, Seigneur! Et puis proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Amen. Oui, il y a une solution de Dieu. Oui, sur ton âme va descendre le rafraîchissement de l'Éternel. Alléluia! Oui! Vous savez que le Saint-Esprit est comparé à une pluie bienfaisante qui tombe justement doucement sur une terre desséchée, ou encore comme une huile rafraîchissante qui descend sur nous, nous couvre, nous imprègne, bien sûr. Le psaume le dira, le psaume 68, verset 10, « Tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu, tu fortifias ton héritage épuisé. » Et dans le Cantique des degrés, David dit que c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Vous soupirez après un rafraîchissement. Qui soupire après un temps de rafraîchissement. Alléluia. N'ayez pas honte, le Seigneur le voit, il le sait. Amen. Et oui, c'est important, c'est important. Le psaume 23 nous présente le Seigneur comme un berger qui oigne la tête enfiévrée de sa brebis. Psaume 23, verset 5, « Tu oignes d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Alléluia. Ma coupe déborde. C'est-à-dire que si ça déborde, je peux partager avec d'autres. Si tu savais ce que le Seigneur a fait pour moi. Ah, tu vis cette situation, je te comprends. Tu ne peux pas me comprendre. Si j'ai vécu la même chose que toi, mais voilà ce que Dieu a fait pour moi. C'est ça qui est important. Amen. Voilà ce que Dieu a fait pour moi. Ailleurs, il dit « Je suis arrosé avec une huile fraîche ». Et c'est vrai que nous pouvons comprendre le sens, je dirais, de l'onction d'huile pour les membres du corps de Christ qui sont atteints de maladies. Jacques chapitre 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, que les anciens prient pour lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il sera pardonné. Amen. Vous voyez, on ne se sent pas mieux quand on tourne le dos au Seigneur, qu'on prend des distances. Ça ne va pas, ça ne va pas. Je vais prendre des distances. Oh, c'est la dernière chose à faire. Je me souviens d'une jeune fille que je visitais. Oh là là, je la visitais parce qu'on ne la voyait pas. Et au groupe de jeunes, ils m'ont dit, c'est Aline qu'elle s'appelle. Oui, c'est Aline, oui, je me rappelle. Il m'a dit, Aline, ça ne va pas bien. Hein? Je vais la voir. Je vais aller la voir. Et puis, elle m'a parlé de certaines choses, des contrariétés, que si, que là, tout le monde lui voulait du mal. Alors, elle s'éloignait. Elle ne parlait pas des chrétiens, mais dans son travail, c'était difficile, etc. Alors, elle s'éloignait du Seigneur. Je lui ai dit, mais c'est la dernière chose à faire. J'attends qu'il me parle. Ah ben, ce n'est pas en restant éloigné qu'il va te parler. Si tu veux qu'il te parle, mais viens à l'église. Viens au rassemblement de jeunes. Viens à la communion fraternelle. Viens au culte. Il parle le Seigneur dans nos cultes. Amen. Alors le proverbe ajoute, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Alors en conclusion, plusieurs choses sont nécessaires pour que viennent ces temps de rafraîchissement. La première, c'est de demander justement des temps de rafraîchissement. Est-ce que vous demandez au Seigneur de rafraîchir votre âme? Ou alors, toujours fiévreux, vous dites, « Seigneur, fais tomber ma fièvre. Éloigne mes ennemis. » Vous savez que nous pouvons triompher même au sein d'une population où on est la seule lumière. Et justement, cette seule lumière au milieu de ténèbres va illuminer toutes les ténèbres. Il n'y aura plus de ténèbres. Amen. Et quelquefois, nous disons, Seigneur, mets-moi au large. Enlève-moi tous ces gens méchants. Eh bien, si tu veux que le méchant devienne gentil, tu as besoin de rester au milieu, qu'il te voit vivre. Et que finalement, ces charbons ardents qui vont se poser sur sa tête parce que tu vas prier avec amour pour lui, eh bien, vont quelque part, allez, être oppressants pour lui. Il va réaliser que finalement, toi, tu pourrais réagir comme lui, mais tu ne le fais pas. Tu viens avec gentillesse vers lui. Tu lui parles avec amour. Tu lui dis, je prie pour toi. Si vous saviez combien ça touche des gens lorsque vous leur dites, je prie pour toi. Et ils font part de leurs épreuves, de leur maladie. Vous dites, ben, mais je vais prier pour toi. Oh, tu vas quoi? Je vais prier pour toi. Ça les touche. C'est dans le monde, on ne dit pas ça. Quelquefois, il y a des moqueries. Mais tu l'as bien cherché. Hein. Tu l'as bien cherché. Je te l'avais averti, je te l'avais dit. Mais là, vous vous dites, je vais prier pour toi. Tu veux fermer les yeux? Alors, ils sont encore plus touchés. Et vous priez avec eux. Et puis, ils ne voient plus de la même manière. Ils n'ont plus la même approche vis-à-vis de vous. Amen. Quelque part, le parfum de Christ commence à les atteindre, à les toucher. Amen. Et c'est ça qui se passe, c'est ça. Priez pour eux. Ne les maudissez pas, bénissez-les au nom du Seigneur. C'est important, hein, la manière dont nous approchons, hein, dont nous faisons les choses, bien sûr. Hein. Alors, ce conseil, de faire cela, c'est le prophète Zacharie qui nous le donne. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs. Impressionnant les orages, hein. Mais il enverra une pluie abondante. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. D'ailleurs, il n'est pas le seul à s'exprimer comme cela, parce que sous d'autres formes, tant d'hommes de Dieu ont goûté au bienfait de Dieu et ils disent la même chose. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leurs appuis. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés lorsqu'ils traversent la vallée de Baca. Ils la transforment en un lieu plein de sources. Baca, c'est la vallée des larmes. C'est ce que veut dire Baca, larmes. Dans cette vallée, ils trouvent un lieu plein de sources. La pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Ils se présentent devant Dieu à Sion. Alléluia. On revient toujours. Le point central, c'est l'Éternel. C'est le Seigneur Jésus. Amen. Tout gravite autour d'eux. Le Saint-Esprit, en accord avec eux, nous bénit. Jacques nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. C'est précis, hein? Puis il pria de nouveau et le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. Amen. Alors recherchons tout simplement la pensée de Dieu pour notre vie. C'est-à-dire recherche, mon frère, ma sœur, la pensée de Dieu pour ta vie. Amen. Dans un couple, c'est pareil. Ma sœur recherche la pensée de Dieu pour ta vie à toi. Et toi, mon frère, époux de cette sœur, recherche la pensée de Dieu pour ta vie. Des fois, nous voulons que ce soit la même chose. On est différents, mes femmes? Il y a quelques différences chez nous, hein? Non? Ne serait-ce que de la manière d'appréhender les choses. On est différents ou pas? On a besoin l'un de l'autre. Mais on a besoin de chercher individuellement, personnellement, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu pour notre vie. Examinons également notre cœur. Mettons les choses en relais avec Dieu. Ne soyons pas sages à nos propres yeux, mais craignons l'Éternel. Détournons-nous du mal. Et le proverbe le dit, Proverbe 3:8, ce sera la santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os. Amen. Alors recherchons et demeurons en communion avec le Seigneur, comme le dit Osée, Osée 6.3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Alléluia. Et je termine. Et là, c'est quelquefois le plus difficile. Attendons avec confiance et patience. Je dis bien, et patience et persévérance, la bénédiction de Dieu. Parce qu'elle viendra. Elle viendra comme une pluie bienfaisante pour rafraîchir notre âme. Jacques le dit, Jacques 5, verset 7. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Amen. Tu as besoin de ce rafraîchissement? Tu as compris le principe? Tu as saisi? Je ne pouvais pas te présenter autre chose que ce que nous présente la parole de Dieu. Hein? Prière d'un malheureux. Ça finit bien finalement, vous ne croyez pas? Eh oui. Parce que le Seigneur ne nous laisse pas comme cela. Je dirais stérile. Déçu en permanence. Je vous donne un petit témoignage. Nous avions dans une certaine ville un stand biblique. On présentait la Bible. On avait donc un stand où la Bible était posée, des littératures également, sur le marché, à l'entrée du marché. Et il y avait une sœur qui venait. Elle connaissait tout le monde. Tout le monde la connaissait. C'était réciproque. Hein. Problème, c'est qu'il me fallut lui dire, « Sœur, ne venez plus. Ne venez plus. » Et une personne s'approchait, venait la saluer. « Ah, si tu savais ce qui m'est arrivé !» Et c'était catastrophe sur catastrophe tous les samedis matins. J'écoutais, j'étais à côté. « Le Seigneur, ça ne peut pas durer, ça. Hein? L'Évangile, c'est autre chose, c'est la bonne nouvelle. » Mais elle ne portait que des mauvaises nouvelles. Je lui dis, c'est pas possible. Alors j'ai eu un entretien avec elle. Je lui ai dit, écoutez, sœur, ne venez plus. C'est bien, vous êtes porté de bonnes intentions. Mais le témoignage que vous rendez n'est pas celui que je vis, moi. C'est pas mon témoignage. La sœur non plus, à côté, c'est pas son témoignage. Alors, le problème, c'est que tout le monde allait vers elle parce qu'ils la connaissaient tous. Elle était connue. Et donc je lui ai dit, écoutez, ne venez plus. Elle est venue, bien sûr, elle a compris. Je dis, ne vous fâchez pas, mais ne venez plus. Ou alors changez complètement de discours. Est-ce que le Seigneur a fait de bonnes choses pour vous? Oh oui! Ben alors, pourquoi vous ne le dites pas? Eh oui! Eh oui, dites-le! Voilà ce qu'il a fait pour moi, le Seigneur. C'est mieux que de... Cette semaine, si vous saviez! Ben oui, on s'en doute, hein, on vit tous pareil. Hein. Mais la solution, elle est là, elle est auprès du Seigneur. Amen. On ferme nos yeux, on prie ensemble et les frères vont se mettre là, ici. Hein? Voilà, gloire à Dieu. Merci notre Seigneur pour ta grâce. Merci de nous avoir encore parlé ce matin. Merci parce que tu veux nous accorder le meilleur, Seigneur. Tu n'as pas dit que nous serions épargnés, que tout irait bien dans le meilleur des mondes, mais tu nous as dit que nous serons confrontés à la difficulté. Et tu nous as dit aussi que tu serais avec nous. Alors merci d'envoyer, Seigneur, ce temps de rafraîchissement pour chacun d'entre nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur, individuellement, collectivement. Nous avons besoin que tu nous visites. Nous avons besoin que ces temps de rafraîchissement descendent sur ton Église, ton peuple ici-bas, que dans toute notre région, Seigneur, pas seulement ici, mais dans toute notre région, il y a une action de l'Esprit. Une action bienfaisante. Seigneur, c'est toi le Dieu du miracle. C'est toi le Dieu de la vie. C'est toi le Tout-Puissant. Alors glorifie-toi maintenant au nom de Jésus, mon frère, ma sœur. Ouvre ton cœur. Laisse le Seigneur pénétrer dans ta vie. Laisse-le prendre la place qui lui revient. Et bénis-le dans ton cœur. Bénis-le parce qu'il t'a parlé. Et parce que je le crois. Si tu ouvres ton cœur, il est en train de te visiter. Il est en train de te réjouir intérieurement. Il est en train de te faire du bien maintenant. Amen. Amen.